تطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبط طيب على حياة الفرحة طقطقتيني طقطمصيتيني زماني لغايب على حياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine culturel, littéraire. Moi, je lis et avec vous, je partage. Et pour le faire, je chronique les albums dès lors que je les ai aimés, j'interviewe les auteurs dès que c'est possible. Et puis, mon truc en plus se situe juste là. Je vous propose une playlist, plutôt la playlist, pour restituer les émotions vécues, ressenties, en toute subjectivité. Donc, on est bien d'accord. Lors de chaque lecture pour une playlist par ouvrage. Voilà. Et comme on est plus de fous que plus on rit cette année, je me suis entourée de chroniqueurs juste déments. Alors, une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Mademoiselle Amo, qui se charge de redéfinir à sa manière complètement folle dingue à elle. Ensuite, nous avons rendez-vous une fois par mois avec Catherine Rochette, qui, elle, nous emmène au cinéma, où nous parle de grands classiques de cinéma. Et enfin, une fois par mois, et c'est le cas aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Bibliomanu, qui lui se charge de vous concocter une chronique qui s'appelle À la frontière des genres et qui est totalement tournée vers les littératures polar et SF, histoire de vous filer la frousse pour de bon. Aujourd'hui, au sommaire de ce numéro, en attendant la chronique de Manu, je suis très très heureuse de pouvoir vous présenter un ouvrage, un roman graphique qui s'appelle Un jour il viendra frapper à ta porte, qui est sorti chez Delcourt dans la collection Shampoing et qui est signé Julien Frey, qui réunit deux problématiques en fait, celle de la recherche de son père en fait. Julien Frey, c'est une histoire autobiographique totalement. Julien Frey a grandi sans son père et donc vous verrez pourquoi tout à l'heure, il décide de partir à sa rencontre pour avoir des explications, sauf que ce jour-là arrive, la rencontre a lieu et que au lieu de c'est pas du tout une rencontre traditionnelle, le père va encore dégager en touche, sauf que la touche qu'il va trouver, c'est la grande histoire via l'histoire de sa famille en fait. Et pour vous parler bien mieux que moi de ce très très beau roman graphique qui évite tout pathos, vraiment, qui est très juste et assez, assez drôle et très touchant, j'ai choisi de faire venir dans l'émission Julien Frey, qui est non seulement le bonhomme qui a vécu cette histoire-là, mais qui est aussi donc le scénariste de cette bande dessinée qu'il a signée avec Dominique Mermoux côté illustration. Et pour commencer par vous dire comment je me suis sentie, moi, une fois que j'avais refermé « Un jour, il viendra frapper à ta porte », eh bien, écoutez plutôt.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Voilà, c'était Beyrouth pour toute sa dimension qui se prête au voyage, un peu de mélancolie aussi, une dose de slave, le souffle épique aussi. Bref, Beyrouth, pour vous dire en musique, l'univers que m'a évoqué la lecture de Un jour il viendra frapper à ta porte de Julien Frey, côté réalisation et écriture, et Dominique Mermoux, côté illustration. Julien Frey, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est ça.
Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Alors, avant d'entrer plus en avant dans votre roman graphique, qui est juste une merveille, racontez-nous un petit peu votre parcours.
Mon parcours, écoutez, moi, je viens de l'animation, du dessin animé. J'ai écrit des dessins animés pour les petits pendant une petite dizaine d'années. Et puis, j'ai commencé la bande dessinée il y a 2 ans. En commençant par des récits courts, notamment en écrivant pour la revue Papier. Mmh. Et puis voilà, là c'est mon premier album.
D'ailleurs, Un jour il viendra frapper à ta porte, dont on va parler aujourd'hui, a d'abord été publié sous forme d'épisode, c'est ça ?
Non, pas exactement. En fait, la première partie, les 30 premières pages, ont été publiées dans Papier. Au départ, c'était un récit court sur la rencontre, la première rencontre avec mon père. Mmh. Et puis, l'écriture de cette histoire m'a donné envie d'en savoir plus sur mon histoire familiale. J'ai continué à fouiller. Et cette première partie est devenue la première partie de l'album.
D'accord, qui est sortie dans la collection Shampoing. Alors, l'éditeur...
C'est Delcourt.
C'est Delcourt, ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous ai invité pour ce roman graphique. Hein, vous l'appelez comme ça aussi ?
Oui, c'est comme ça qu'on dit. On peut dire bande dessinée, moi j'aime bien
non,
aussi.
Non, mais c'est hyper difficile à définir le roman graphique quand même.
Plus dire grand-chose maintenant.
Dès lors qu'on essaye de fixer des critères, c'est juste impossible en fait. Ouais. Vous l'avez en tout cas réalisé avec Dominique Mermoux,
oui.
Côté illustration.
Oui.
Je vous laisse raconter la petite histoire de ce roman graphique qui s'appelle « Un jour, il viendra frapper à ta porte ».
Alors, la petite histoire, c'est que... Vous voulez dire le résumé de l'histoire ?
C'est ça.
Ouais, voilà. Et ben, au départ, moi, j'ai grandi avec ma mère et j'ai rencontré mon père à 30 ans. Voilà, je suis allé le voir à l'improviste.
Quand vous-même, vous vous apprêtiez à devenir père ?
Voilà, c'est ça. C'est l'envie de devenir père qui m'a poussé à aller rencontrer le mien. J'avais envie de régler un dossier. Et je suis allé le voir à l'improviste sur son lieu de travail. Et puis voilà, au lieu de clore un dossier, j'en ai ouvert un parce qu'il m'a en fait raconté un secret de famille ce jour-là, de but en blanc. Il m'a raconté, plutôt que de m'expliquer pourquoi il n'avait jamais été là, il m'a livré un secret de famille d'une façon un petit peu brutale sur son propre père qui était juif polonais et qui, dans le ghetto de Varsovie, a dû commettre un acte pour le moins horrible pour s'échapper.
C'est ça. Très concrètement, le fait que cet ouvrage soit votre histoire, en fait, dans quelle position ça vous a placé de travailler aux côtés de quelqu'un d'autre, en fait ?
Ah, ben moi, c'est ce qui m'intéressait dès le départ. C'est vrai que les romans graphiques, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas en France, c'est toujours la personne qui écrit qui dessine aussi. Au cinéma, ce n'est pas du tout une question, on ne se pose pas la question. En bande dessinée, on se la pose beaucoup parce que c'est vrai que la plupart des romans graphiques sont écrits et dessinés par la même personne. Moi, de toute façon, je ne dessine pas, je suis scénariste. J'ai écrit cette histoire comme un scénario de fiction, sachant qu'effectivement c'est réel, mais c'est écrit d'un point de vue narratif comme une fiction. Mmh. Et après, l'intérêt de travailler à deux, c'était d'avoir la perception de Dominique, le recul, son point de vue à lui sur cette histoire. Et l'histoire est quand même assez chargée, même s'il y a beaucoup d'humour, c'est quand même au départ quelque chose d'assez lourd. Et donc on voulait qu'il y ait... Du recul et éviter tout pathos.
Alors vous l'avez dit, votre roman graphique porte plusieurs problématiques. Alors il y a l'histoire avec un grand H dans une histoire familiale, il y a la recherche des origines et en même temps comme on le disait tout à l'heure, en fait cette démarche là, enfin moi en tout cas j'y ai lu ça, elle vient parce que c'est à votre tour de devenir père et que vous êtes on va vous voir dans plusieurs scènes assez angoissées par le fait de ne pas pouvoir donner de réponse à vos enfants.
Bien sûr.
Enfin, il n'y a qu'un enfant dans ce livre-là, mais en tout cas, voilà, c'est une des questions.
Un et demi.
C'est ça. À la fin, il y en a un et demi. Est-ce que ça, au moins, c'est un dossier qui est clos pour vous ou pas ? C'est-à-dire que, vous êtes parvenu à ça ?
Moi, j'ai avancé. Le but du livre, ce n'est pas de répondre à toutes les questions, c'est de de voir quelles sont les bonnes questions qu'on peut se poser. Et je crois que c'est un puissant fond, en fait, c'est cette quête identitaire. Et moi, dans le livre, ce que j'ai voulu dire, c'est pas que... on ne peut pas répondre à toutes les questions en termes de mémoire, en termes identitaires. On ouvre des dossiers, puis à chaque fois qu'on essaye de résoudre un problème, on en découvre un autre. Et le but du récit, c'était plutôt de dire voilà, jusqu'où il faut aller dans la recherche. Mm-hmm. Moi, ça m'a amené jusqu'à Jérusalem. J'ai beaucoup cherché, j'ai découvert beaucoup de choses, mais j'ai aussi appris à un moment donné qu'il fallait s'arrêter.
Ok, c'est moins présent dans le livre, ça.
Ah, vous trouvez ?
Ouais.
C'est un peu la conclusion, quand même, de tout ça, c'est qu'il y a des portes qui restent ouvertes, et je parle de puits sans fond, et c'est un peu la conclusion.
Moi, ce que j'ai trouvé très fort, en tout cas, c'est que pour traiter de telles problématiques, vous évitez totalement le pathos,
ouais.
En introduisant notamment beaucoup d'humour, en fait.
Ouais.
Est-ce que c'était une grande pression, ça, pour vous ? Susciter l'empathie, c'est une chose. Après, l'apitoiement, c'en est une autre.
Voilà, j'avais peur de l'impudeur, en fait. Je me suis quand même livré, pas mal livré. On ne peut plus livrer, c'est-à-dire que j'ai raconté cette histoire alors qu'avant, je ne l'avais jamais racontée à personne, par ma compagne, mais même mes amis ont découvert l'histoire en la lisant. Donc pour moi, la gageure, c'était vraiment de raconter cette histoire sans m'apitoyer, quoi. Oui, je connais pas mon père, et alors ? Et puis c'est aussi une façon de dire aux gens qui ont le même parcours que moi que c'est pas grave, on peut faire avec.
Oui, qu'on trouve pas non plus toujours un super-héros en plus au bout.
Oui, voilà, ouais. Et puis je connais pas mal de gens qui ont vécu avec leur père et qui ont
aussi des dossiers ouverts et fermés.
Voilà,
il y a des questions auxquelles il faut répondre.
Ouais, c'est pas simple, même avec son père.
Je suis d'accord avec vous. Alors, pour en venir à la place de l'illustration, même si c'est pas vous qui avez fait les illustrations, j'ai trouvé les équilibres toujours et les outils choisis toujours très justes aussi et ils m'ont assez interpellé cette histoire de bouche absente,
ouais,
sur les visages,
ouais,
des personnages, ou parfois même complètement, il y a plus aucune trace sur le visage. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, ça ?
Ah, moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Alors, avec Dominique, lui, il l'a fait pour certaines raisons. Moi je vois autre chose. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que le lecteur peut interpréter à sa façon les expressions.
Tout à fait.
Comme on imagine d'habitude les voix des personnages, là, on peut avoir encore plus d'empathie pour le personnage en collant soi-même les expressions qu'on a envie de coller.
Très bien. Alors, le jeu de Rock and Page, c'est, je vous ai demandé d'amener des titres de musique.
Ouais.
Là, on va écouter Clapton. Pourquoi Clapton ?
Ah, Clapton, bah, c'est tout simplement parce que quand j'ai rencontré ma cousine pour la première fois à Jérusalem, on était dans un pub, puis on a entendu cette chanson et j'ai trouvé ça... bizarrement, d'être à Jérusalem, je ne m'attendais pas à entendre Clapton à ce moment-là. Et voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, donc ça m'a fait plaisir de la retrouver sur place.
Allez, on l'écoute. Voilà, ça c'était Cocaïne façon Clapton, choisi par Julien Frey pour illustrer Un jour il viendra frapper à ta porte, ce roman graphique dont il est l'auteur côté, en tout cas, scénario. Plus que scénario, ça vous l'aurez compris. À quoi tient le choix du noir et blanc de la couverture en couleur ? Enfin, la couverture est en couleur, l'intérieur est en noir et blanc,
ouais.
Ça suscite un décalage, à quoi il tient ?
Oula, alors ça, je sais pas. Le choix du noir et blanc, c'est. Je sais pourquoi on a choisi le noir et blanc. C'était justement pour pas que l'univers graphique soit trop réaliste, comme, mm-hmm. tout comme l'absence d'expression sur les visages. C'était pour qu'il y ait un écart avec l'univers. Réel. Après la couverture couleur, c'est un choix de Dominique. Je pourrais pas vous dire. Je crois que sur Shampoing, toutes les couvertures sont en couleur. Donc je crois que c'est aussi simple que ça.
Est-ce que vous diriez de cet ouvrage qui vous a libéré et que vous vous sentez prêt à passer à autre chose en fait?
Libéré, je sais pas. C'est pas une thérapie. Effectivement, j'ai pas envie de continuer à travailler sur le même sujet. Voilà, donc je travaille déjà sur un autre album, sur un sujet assez différent, mais je vais quand même continuer à travailler sur le lien entre le présent et le passé, sur la grande histoire et l'histoire plus personnelle.
Au-delà de ce que je voulais dire, c'est au-delà de la question de vouloir savoir qui est votre père, et puis après de vouloir comprendre votre histoire familiale et qui a un très fort lien avec la grande histoire, est-ce que c'est le matériau autobiographique qui est le vôtre résolument ou pas forcément?
Ah, je crois. Je crois que pas pour vous voir y échapper, puisque le nouvel album parle encore de personnes de ma famille, donc l'autobiographie va me coller à la peau encore un long moment.
Ok, très bien. Vous dites, lorsque vous vous rendez en Israël, que tout semble compliqué. Pour nous aussi, résolument ce conflit, notamment israélo-palestinien, ça demanderait un effort personnel incroyable de comprendre les tenants et les aboutissants. Enfin, en tout cas, on ne peut pas compter sur les médias pour le comprendre. Est-ce que en vous rendant à Jérusalem, est-ce que vous avez mieux cerné les choses? Ou est-ce que ça reste aussi flou et compliqué?
Alors au départ, j'ai plutôt rien compris. Parce que moi, j'étais dans Jérusalem, dans le quartier musulman, près de l'Austrian Hospice. Et ce que j'ai vu, ce sont des musulmans et des juifs ensemble. Mais mon oncle... L'oncle que je vais rencontrer là-bas m'a expliqué, il m'a dit, ils ne sont pas ensemble, ils se croisent. Et effectivement, je n'ai pas vu un seul musulman et un seul juif s'adresser la parole. Et du coup, ce qui m'avait semblé au départ comme être une bonne chose, m'a semblé, c'était d'une violence absolue, quoi. Les tensions, on les sent au quotidien. Voilà, puis je suis allé aussi à Bethléem. Et là, Bethléem, c'est un territoire palestinien depuis 20 ans. Et là, c'est un autre monde aussi. Enfin, c'est d'une violence absolue. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre.
Ça reste compliqué à comprendre.
Surtout pour moi qui, avant d'aller là-bas, moi je suis vraiment candide par rapport à ça. J'ai pas une culture historique si importante que ça. Et quand je suis arrivé là-bas et qu'on m'a dit t'es au Moyen-Orient, c'est limite si je le découvrais pas. Je suis parti sur un coup de tête pour des raisons familiales, pas pour des raisons politiques ou historiques. J'avais rien à faire là-bas, j'aurais pu aller ailleurs. Et puis je me suis dit, ah oui, le mur des lamentations, c'est vrai, c'est là, en fait.
C'est tout petit.
Oui, ah oui, quand même.
C'est ça. Il y a un moment très fort dans le récit, ou en tout cas qui m'a particulièrement touchée. Vous vous rendez dans un mémorial.
Oui.
Et en fait, avec votre cousine, ouais. Et vous vous dites, et je trouve ça assez courageux, et c'est, vous vous dites finalement, je ne suis pas touchée par cette histoire-là.
Oui, j'ai eu une impression étrange. J'ai même eu un peu honte d'avoir cette impression-là. Vous savez, comme quand vous allez à New York pour la première fois, vous avez l'impression de connaître. Eh ben, le mémorial de la Shoah, c'est plein d'images auxquelles vous êtes déjà confronté au cinéma, forcément. Mm. J'ai vu des films, j'ai vu des documentaires, j'ai vu le film de René, notamment. Et j'ai pas... Donc, voilà, il y avait des choses que j'avais déjà vues. Et puis, j'ai pas non plus aimé le côté mise en scène. En fait, j'aurais voulu quelque chose... Je sais pas, moi, il y avait une musique... Pour moi, on n'a pas besoin d'en rajouter dans l'émotion, quoi. Et de par l'architecture du lieu, de par cette musique angoissante et étouffante, j'étais très mal à l'aise dans cet endroit. Je voyais les gens pleurer et je me suis demandé si c'était pas un peu la même chose que pour un enterrement où vous avez tous les gens qui sont très très touchés. Et j'ai du mal à être ému quand tous les gens pleurent autour de moi.
Alors, pour, sachez-le, et je le dis aussi pour les auditeurs, celui qui est le mémorial qui est là pour commémorer et pour le devoir de mémoire sur la même thématique, c'est, et qui est particulièrement... je ne sais pas si ça peut être bien fait, mais en tout cas, celui qui est très impressionnant et dont on ne se sent pas manipulé par la mise en scène, justement...
À Paris ?
Étrangement, est celui de Berlin.
Ah.
Voilà. Donc... Julien Frey, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page ce matin.
Merci à vous.
Le deuxième titre que vous m'avez proposé, le troisième, on le gardera secret pour nous deux. C'est, c'est un... On ne peut pas en parler à l'antenne.
On ne peut pas en parler.
C'est ça, ce n'est pas possible. C'est Michael Jackson, dites-nous pourquoi.
Michael Jackson, parce que toujours pareil, pour le coup, c'est la première chanson que j'entends en arrivant à Jérusalem, dans le petit taxi collectif. Et pareil, moi, Michael Jackson, c'est toute mon enfance. Mm. Et cette chanson, c'est « Do you remember the time ?» Et j'arrive à Tel Aviv et je vais jusqu'à Jérusalem et j'entends cette chanson et ça me semble complètement décalé par rapport à la situation.
Merci, merci infiniment.
Merci à vous.
Voilà, c'était Michael Jackson et sans transition entre Michael Jackson et Bibio Manu, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Voici pour vous tout de suite à la chronique des genres.
Merci Marie-Pierre et bonjour à toutes et à tous. Frontières des genres donc, et à chaque chronique, j'ai envie de vous dire, avec ce livre-là, on nage dedans. Eh bien, figurez-vous qu'avec In Cloud We Trust, ouvrage signé Frédéric Delmeul paru aux éditions Mnemos, oui, on nage dedans. Pour la petite histoire, sachez que l'auteur situe l'action de son livre dans un futur relativement proche, ce qui n'est pas sans le rendre d'autant plus glaçant. La société du loisir connaît un grand bouleversement avec l'apparition de nouveaux parcs virtuels où vous pouvez revivre, comme si vous y étiez, des moments clés de l'histoire ou évoluer dans des mondes totalement fictifs, vous permettant de dégommer du zombie à tout va ou de visiter des châteaux hantés. Bref, la réalissime est née et elle rencontre bien évidemment un succès foudroyant. Seulement voilà, dans cette société où l'individualisme se voit sans cesse conforté, d'étranges événements surviennent et des gens commencent à disparaître alors même qu'ils sont en pleine simulation. In Cloud We Trust, fragmenté en plusieurs récits qui s'interconnectent, vous scotche à votre chaise tant par sa forme que par son propos, bien incisif. Et on va voir en quoi il l'est, incisif, avec Frédéric Delmeul, là, maintenant, tout de suite. Frédéric Delmeul, bonjour et merci de nous rejoindre à la frontière des genres. Alors ce titre, In Cloud We Trust, il laisse entendre énormément de choses, qui s'éclairent d'ailleurs à la lecture du livre. Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Et petite curiosité aussi, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi?
Oui, alors je commence par la deuxième partie de la réponse. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Assez curieusement d'ailleurs, j'avais pris ça comme titre de travail. Et je m'attendais, comme pour les titres précédents de mes précédents romans, donc qu'ils soient refusés, qu'on doive négocier, etc. Et en fait, non, c'est passé comme une lettre à la poste chez Mnemos. Et j'en ai été évidemment très content. Alors pour arriver cette fois sur la première partie de votre question, c'est vrai que c'est un titre qui sous-entend pas mal de choses, donc référence à la devise américaine « In God We Trust ».
Oui, tout à fait.
L'assimilation du cloud et de Dieu est évidemment pas le fruit du hasard ici. Et je crois que c'est quelque chose qui prend son sens à la fin du roman particulièrement.
Tout à fait. Alors justement dans ce roman, on ne peut pas ne pas parler de la forme. Vous empruntez de multiples voies, ça renvoie d'une certaine façon à l'architecture d'un cloud justement qui se nourrit d'apports successifs.
Tout à fait.
Comment avez-vous vécu cette expérience d'écriture consistant à enchaîner des histoires différentes et complémentaires tout en faisant en sorte qu'elles s'interconnectent en fait?
Alors, ça a été très compliqué.
J'imagine, oui.
Ça a été un vrai casse-tête. Alors, l'avantage, c'est que, contrairement à mon lecteur, moi, j'avais déjà le puzzle complet en tête avant de commencer. Mais ensuite, réaliser les pièces, les assembler les unes avec les autres, c'est vraiment pas un travail simple. Mmh. Si je veux être tout à fait honnête, j'ai fait plusieurs essais de narration différentes, dont une forme assez classique avec un trio d'enquêteurs qui menaient l'enquête dans un style policier assez classique, vraiment traditionnel. Et puis j'ai bien vu que ça fonctionnait pas, qu'un tel sujet appelait une forme un peu différente, un peu plus compliquée, et qu'il fallait justement essayer de traduire ce que pouvait être le cloud à travers le livre. Et là, je me suis souvenu d'un film documentaire que j'ai vu il y a très très longtemps, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle « L'île aux fleurs ».
Non.
C'est un documentaire brésilien de la fin des années 80 et qui reprenait un peu déjà ce principe. On partait d'une tomate cultivée par un jardinier japonais et puis on suivait le parcours de la tomate qui était commercialisée, qui était vendue, qui était consommée, qui finissait par atterrir dans une décharge. Je crois que c'était dans une ville brésilienne, Porto Alegre, si je me souviens bien. Et en fait, à travers l'itinéraire d'une simple petite tomate, on avait un panorama des inégalités sociales, de la division internationale du travail, etc. Il n'y avait pas vraiment de personnages. Il y avait une histoire qui se soutenait toute seule, en empruntant le vécu de différentes personnes à droite et à gauche, tous ceux qui croisaient son chemin en fait. Et moi je crois que inconsciemment, parce que sur le moment j'étais pas vraiment conscient de ces enjeux-là, j'ai essayé de refaire cette espèce d'architecture. L'histoire se mène toute seule. Il y a différents intervenants qui arrivent, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et au total, le puzzle doit finir par tenir debout.
Et il fonctionne, hein, en tout cas, ça je peux vous l'assurer.
Merci.
Vous parlez de notre société de manière beaucoup plus prégnante que dans vos autres romans. Vous abordez l'hyperconnexion, la société de consommation, ses excès, l'individualisme, la société du loisir, la quête effrénée du pouvoir et de l'argent. Ouais. Vous êtes même assez incisif parfois, et à juste titre. Est-ce que vous voyez dans In Cloud We Trust un roman de la colère pour vous?
Ah oui, complètement. Oui. Complètement un roman de la colère, de l'indignation. Toutes ces choses que je ne peux pas forcément dire face à mes élèves quand je suis enseignant parce qu'on a un devoir de réserve, un devoir de neutralité, là je peux pleinement les exprimer quand je suis écrivain et je m'en prive pas. Oui, non.
J'ai l'impression que vous en êtes moins privé dans celui-ci que dans les précédents.
Non. C'est vrai,
oui.
C'est vrai, mais les précédents traitaient essentiellement du passé.
Oui.
Et il pouvait y avoir, par exemple, dans les manuscrits de Kinneret, il pouvait y avoir quelques réflexions contemporaines, mais c'était pas le sujet principal. Là, on peut dire que le sujet principal, c'est le monde d'aujourd'hui, les sociétés, donc de l'hypercapitalisme, etc.
Oui.
Et c'était vraiment ce que je voulais inscrire au cœur du projet dès le début de l'écriture.
D'accord. Pour finir, Frédéric Delmeul, notre question rituelle, vous avez parlé tout à l'heure d'un documentaire, mais quel livre vous a marqué dernièrement, ou pas d'ailleurs, et que vous conseilleriez à nos auditrices et nos auditeurs?
Alors, dernièrement, dernièrement. Alors, je vais vous décevoir, c'est pas du tout un thriller, c'est pas de la SF.
C'est pas grave, on est preneur.
Je lis pas du tout ce que j'écris, c'est ça qui est assez bizarre. Et c'est un roman de Pierre Macorlan, L'encre de miséricorde. C'est une vieille édition parce que je crois que ça fait longtemps que c'est plus réédité et un récit absolument magnifique sur l'histoire d'un petit garçon qui se rêve pirate et puis qui s'aperçoit que les choses sont quand même un peu plus sombres qu'il ne s'y attendait. Un très très beau livre.
Bon, ben, merci beaucoup. À défaut de pouvoir le trouver en librairie, il y a des bibliothèques qui sont par là, un petit peu partout, dans lesquelles vous pourrez le trouver. Merci beaucoup Frédéric Delmeul, à bientôt.
Je vous en prie, merci. Au revoir.
Rock and Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno, alias Kakito, qui a réalisé la technique de cette émission. Je vous rappelle qu'on a causé de Un jour il viendra frapper à ta porte, qui est un roman graphique sorti chez Delcourt dans la collection Shampoing, qui est juste un chef-d'œuvre. Et non, on en a causé avec Julien Frey, qui est l'auteur de ce très très beau roman graphique. On a reçu aussi Bibiomanu pour À la chronique des genres. Je vous laisse en compagnie de Étienne Dao, qui a une autre vision de ce que c'est que retrouver un père, voilà, quand on est adulte et qu'on l'a jamais connu, le père. Prenez bien soin de vous, à tout bientôt pour un nouveau Rock and Page.
Boulevard des Capucines. Ton nom qui tout là-haut scintille est le même que le mien. C'est l'Olympia qui célèbre ton étoile qui là-haut s'élève, et je vis ton succès de loin. Sur scène, tu es le centre, la foule aimante vacille. J'observe lorsque tu chantes que brillent les yeux des filles. Je n'approcherai pas les loges où on te couvre d'amitié et d'éloges, car la pudeur me le défend. De loin tu sembles fort et grave, plus que les garçons de ton âge, comme lorsque tu étais enfant. Rue que Martin, je te guette et l'appréhension me vide. Tous ces regrets douloureux me rongent comme la cire.